Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons M. Faustin Koyasala. Il est journaliste, il est directeur de publication du journal Echo News, par exemple à Kinshasa. Bonjour Faustin Koyasala.
Oui, bonjour Guy, et bonjour à tous les amis.
Maître Annie Massengou, elle est membre de la société civile du Congo central. Et bonjour Maître Annie Massengou.
Bonjour M. Guy Maté, et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magouar Kimayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Bonjour Louis Magouar Kimayou.
Bonjour Guy Maté, bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices, bonjour à tout le monde.
Merci, à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42-502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42-502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Nous rappelons que nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Dans cette émission, nous avons la participation de Faustin Koyasala, qui est journaliste et le directeur de publication du journal Echo News de paraissant à Kinshasa. Maître Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magouar Kimayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Au menu de cette émission, poursuite des combats entre d'une part les rebelles du M23 RDF et d'autre part des groupes armés et les FRDC dans les Nord Kivu, sommet de Brazzaville sur les 3 bassins forestiers tropicaux et enfin revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes célébrée le 2 novembre de chaque année. En effet, l'ONG Journaliste en danger, Jedan Sigle, a affirmé mercredi 1er novembre avoir recensé au moins 523 atteintes à l'encontre de la presse, dont 5 journalistes tués depuis l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir. Le rapport annuel de GED, intitulé « Les bilans de la liberté de la presse sous le premier mandat du président Félix Tshisekedi », met en lumière les graves violations de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Les services de monitoring de cette organisation a livré ces chiffres en marge de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre le journaliste célébré le 2 novembre de chaque année. GED a tout de même reconnu l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse issue des états généraux de la communication et des médias qui n'a jamais été publié au journal officiel plus de 8 mois après sa promulgation par les chefs de l'État. Faustin Koyasala, on se rappelle qu'au début de son mandat, le président de la République ne cessait de rassurer les journalistes sur sa volonté de les laisser travailler en toute quiétude. 4 ans après, qu'est-ce qui peut avoir détérioré, n'est-ce pas, les rapports entre les gouvernements et les journalistes au point qu'on en arrive à ces chiffres de plus de 500 cas d'attaque à la presse?
Bon, merci Guy pour la question. Évidemment, Vous le rappelez très bien, on sait que quand le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est arrivé au pouvoir, il avait même promis, je me rappelle, à la clôture des États généraux de la communication et des médias, de faire réellement de la presse ce quatrième pouvoir. Mais vous savez, il y a une différence, généralement quand on est en dehors du pouvoir, et quand on y arrive, c'est presque les jours et la nuit. Si bien aujourd'hui, si on doit se fier au rapport des journalistes en danger, en fait, on risque d'arriver à la conclusion que entre Kabila et Tshisekedi, c'est évidemment c'est comme blanc bonnet bonnet blanc. Mais à mon avis, je crois qu'il faudrait nuancer parce que ce que j'ai de mention dans son rapport, évidemment avec les 523 cas d'attaque contre les médias, avec près de 500 journalistes assassinés. Il faut comprendre que dans la situation de la RDC, c'est un pays en fait qui évolue à deux vitesses, on doit le reconnaître. Il y a une partie qui est gérée totalement par le gouvernement, à partir de Kinshasa, et puis il y a une autre partie qui échappe totalement au contrôle de l'État congolais. C'est en fait la ceinture orientale, là où il y a les M23, il y a les ADS, et puis il y a tous les groupes armés qui écument à l'Est. Et vous allez remarquer que les journalistes tués ne sont pas forcément dans la partie qui est gérée par le gouvernement légal qui est établi à Kinshasa, c'est plus là où il y a un no man's land, c'est-à-dire dans les groupes contrôlés par les groupes armés comme les M23, les ADS, ainsi de suite. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut nuancer un peu. C'est vrai que le rapport de GD, moi je l'estime trop alarmiste, parce que ça va vraiment dans les extrêmes. C'est comme si pendant tous les 4 ans du pouvoir de Félix Tshisekedi, rien n'a changé. Moi je dois avouer qu'on sent réellement au niveau du gouvernement une volonté d'aller de l'avant. La preuve évidente, c'est avec la loi Mouyaya, parce que depuis que Mouyaya est au ministère de la communication et des médias, on sent que le gouvernement a pris vraiment à bras le corps le problème de l'amélioration, non seulement l'amélioration des conditions des journalistes, mais même de l'assainissement du cadre d'exercice de la liberté de la presse. Bientôt, il y a un congrès extraordinaire qui sera convoqué pour l'INPC de façon à assainir un peu ce milieu. Parce que quelquefois aussi, dans le monde des médias, il ne faut pas toujours jeter la balle vers le gouvernement. Quelquefois aussi, on doit se retourner vers nous-mêmes par un exercice d'introspection pour voir est-ce que nous, à notre niveau, au niveau de la profession, qu'est-ce que nous faisons pour que ces professions-là soient réellement assainies, qu'il n'y ait pas de moutons noirs comme même bien les dénoncer. Aujourd'hui, entre nous, on a du mal à définir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Donc, quelque part aussi, il faut que nous aussi, nos organes de régulation interne puissent fonctionner avant que nous ne jetions seulement la balle au niveau de l'État congolais.
Merci, Maître Kani Matengu. Comment vous réagissez à ces rapports de GED sur la situation de la presse en RDC?
Merci beaucoup. Je pense que, en tant que membre de la société civile, GED devait rendre un rapport tout à fait équilibré, en ressortant aussi des responsabilités, voir qu'est-ce que l'État congolais aurait pu faire et qui n'a pas fait, au lieu de généraliser, de jeter toute la faute ou tout le mal sur le gouvernement. Un rapport, lorsqu'il est équilibré, il l'attire. Parce que là, si du côté, comme l'a dit mon prédécesseur, si du côté du gouvernement, les choses vont dans le sens d'une amélioration, et qu'il y a des problèmes, des cas de violation dans la zone où l'insécurité règne, je ne pense pas qu'il faille répéter cela sur le gouvernement alors qu'on est conscient des efforts qui sont en train d'être fournis. Et donc, en analysant les deux situations, côté où il y a la sécurité, côté où le gouvernement gère sans crispement des balles, je dirais que on ne peut pas dire exactement qu'il y a des tueries où on a tué des journalistes de ce côté-là.
Merci Louis Magloire Kemayou. Au-delà de ces rapports de GED, il est dit qu'en général sur 10 affaires concernant l'assassinat des journalistes dans le monde, une seule est élucidée. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-il difficile ou impossible d'élucider une situation relative à l'assassinat d'un journaliste?
Non, je crois que cela doit être fait si on a des enquêtes qui sont menées et qui sont souvent des enquêtes au long cours. C'est parce que c'est pas facile. On a en face souvent des journalistes, des gens qui sont des professionnels de la mort. Ils sont là, ils prennent toutes leurs dispositions pour ne pas être confondus. Et donc, les précautions qu'ils prennent font que les enquêtes sont souvent très longues à aboutir. Mais on ne doit pas désespérer. Je pense que l'engagement et la fermeté que l'on pourrait avoir à la fois du côté du public, du grand public, et du côté des autorités, devrait décourager ce genre de personnes, parce que si un véritable engagement est pris aujourd'hui par les autorités publiques et que le public lui-même s'engage fortement à protéger les journalistes qui sont là comme des ouvriers de la démocratie pour permettre que le débat contradictoire ait lieu dans nos sociétés. Je pense que cela contribuera à décourager les entrepreneurs dont je parlais tout à l'heure de la mort et les ennemis de la liberté de la presse. Parce que pour moi, il n'est pas normal que quand on travaille pour l'émergence de la vérité, pour la vivacité du débat démocratique, il n'est pas normal que l'on y laisse sa peau. Et ça, c'est pas valable que pour les journalistes, c'est valable pour tout le monde. Mais beaucoup plus encore pour les journalistes qui sont les véritables piliers de la démocratie dans notre société et dans le monde dans lequel nous vivons. Donc, les livrer en pâture comme ça à des assassins, à des malfrats, ne devrait pas honorer nos sociétés. J'espère que l'on arrivera à élucider chacun de ces meurtres-là à chaque fois qu'il se produira.
Merci. Nous allons en profiter pour rendre hommage à l'une des grandes plumes de la presse congolaise. Il s'agit de José Nawej, journaliste et éditeur du journal Forum des As, qui est décédé à Kinshasa le samedi 28 octobre dernier des suites d'un malaise cardiaque. Il était intervenu récemment dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine en RDC au sujet de la problématique du retrait accéléré de la MONUSCO. C'était le 23 septembre dernier. On écoute ce qu'il disait à ses propos.
Écoutez, tout d'abord, un simple parallélisme de forme, chers confrères. La MONUSCO, dont la MONUC est l'ancêtre, est en RDC à la faveur d'une invitation du gouvernement congolais. Il y a près de 25 ans qu'on vient de le dire, et c'est le même gouvernement congolais, tout simplement avec le principe de la continuité de l'État, qui demande souverainement à la même mission onusienne de se retirer. Quoi de plus normal, quoi de plus logique. D'autant aussi que le bilan de cette mission, pour ne pas entrer dans des polémiques inutiles, disons que ce bilan est mi-figue, mi-raisin sur le double front de la protection des civils et de la stabilisation du Congo. Oui, seulement, comme je le faisais observer dans mon éditorial de cette semaine, d'une des éditions de cette semaine, Kinshasa ne devait pas non pas confondre vitesse et précipitation en jetant le bébé avec l'eau du bain. Je m'explique, on a quantité de choses à reprocher à la MONUSCO. Les populations elles-mêmes de l'Est du pays ont à plusieurs reprises reproché ce qu'elles considèrent pas forcément à tort comme l'inaction de cette mission par rapport aux incursions de forces rwandaises et de leurs supplétifs congolais, mais force est de reconnaître aussi que face à l'affaiblissement de l'État congolais et de ses technostructures, la MONUC hier, la MONUSCO aujourd'hui, est d'un apport non négligeable, nous devrons le reconnaître. Vous savez que la logistique dans beaucoup de régions de l'Est est assuré par logistique, j'entends transport, j'entends beaucoup de choses, est assuré par la MONUSCO. Des choses que l'État aurait dû faire, mais comme il y a moins d'État, c'est la MONUSCO qui suppléie. Il faut le reconnaître. Et maintenant, le problème, c'est que quand le président, tout souverainement, en appel, pas en appel, décide du retrait accéléré de la mission onusienne, la question qu'on se pose, c'est de savoir si, dans l'immédiat, il y a une alternative à ce départ. Parce qu'une chose est de demander le départ de la MONUSCO, une autre est de s'assurer que l'on saura, dans l'immédiat, combler le vide que laissera cette mission-là. Il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal qu'il est censé guérir ou soigner.
Voilà, on n'écoutera plus cette voix. Faustin Kodiasala, vous avez connu José Nawej, quel souvenir vous gardez de lui?
Bon, merci, merci Guy. Par rapport à moi, je l'appelais José Nawej. Vous savez, par rapport à notre éducation, il y a des gens, en tant qu'Africains, qu'on devait même se gêner de les appeler par leur nom. En tout cas, personnellement, je me gênais de l'appeler José Nawej, même s'il aimait bien partager cet esprit de la confrérie. Et je le remarque même dans la réponse qu'il a donnée à votre question, il commence par confrère. Alors en tout cas, dans son entendement, au sein de la profession, il n'y avait pas d'âge. En tout cas, il se disait confrère à tout le monde. Et moi, personnellement, j'ai de bons souvenirs par rapport à ce qui représentait beaucoup Boisjoseph Naouej. Parce que même en lançant Eco News, je me suis totalement inspiré de lui. C'était en fait mon conseiller au culte. C'est lui qui m'a motivé quand j'ai quitté le potentiel. Et que je me suis dit, non, il faudrait aussi que je lance mon propre canard. En tout cas, c'est lui qui était le premier à me dire, non, Faustin, tu es capable de faire ça parce que je te connais. Et moi, personnellement, je l'appelais maître parce que il y a des moments, à chaque fois que je lisais ses éditos, je prenais même le temps de l'appeler, je dis, mais monsieur, comment vous arrivez à faire ça? Où est-ce que vous tirez votre inspiration? Il me disait, non, de toute façon, bon, l'inspiration vient toujours parce que c'est généralement tard la nuit que j'écris mes éditos. Moi, je me disais, mais en tout cas, un jour, je souhaiterais avoir cette belle plume comme la vôtre. Et lui m'encourageait toujours, il me dit, mais Faustin, tu le fais déjà bien. Bon, je crois, José Naouej, dans la profession, bon, en tout cas, je vois pas quelqu'un qui pourrait, c'est vrai qu'il y a quelquefois en africain, on fait jamais un mauvais témoignage de mort, mais personnellement, en tout cas, sincèrement, je dois reconnaître que José Naouej était une lumière. Il était une lumière pour nous tous. C'est quelqu'un qui nous inspirait, c'est un aîné qui était prêt à nous écouter, qui était prêt à nous prodiguer de conseils, et qui n'arrêtait jamais de répondre à toutes nos sollicitations, surtout chaque fois qu'il fallait bien nous aider pour avancer dans cette profession.
Merci, merci Maître Annie Matengou. Vous étiez là le 23 septembre dans cette émission lorsque José Naouej intervenait. Et là, personne ne pouvait, n'est-ce pas, savoir que c'était sa dernière intervention dans cette émission. Comment vous réagissez à cette nouvelle faisant état de sa mort?
Bon, c'est une nouvelle triste, surprenante. Et moi, je pouvais pas imaginer. Moi, je me disais, lorsque vous m'annonciez que nous allions avoir cette séance aujourd'hui, d'emblée, je m'imaginais que nous serons ensemble encore pour une fois. Et donc, lorsque vous avez poursuivi avec le message pour m'annoncer que il n'était plus, alors là, j'étais très, très surprise et ça m'a fait un choc au cœur. C'est une voix, une intelligence qui s'en va. J'espère tout simplement qu'il a eu le temps de préparer sa relève. Mais je peux dire avec assurance que nous avons perdu un grand homme.
Merci beaucoup. Louis Magloire Kemayou, il y a quelques mois, José Naouej a participé avec vous dans cette même émission. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et qu'est-ce que cela vous inspire?
Je n'ai malheureusement pas eu l'occasion de le fréquenter de façon aussi intime que les confrères qui l'ont abordé durant sa carrière pour un témoignage plus personnalisé. Mais je retiens de nos échanges, des échanges que nous avons eus notamment, qui n'ont pas été nombreux et qui se sont faits en l'occurrence sur les ondes de votre radio. Je retiens un journaliste très rigoureux, très équilibré dans son analyse, qui ne se laisse pas emporter par la passion de choisir un camp, mais de choisir celui de la vérité, et surtout un débit qui permet aux uns et aux autres de le suivre sans avoir à cavaler parce qu'il va trop vite ou qu'il est trop lent. Donc pour moi, c'est quelque chose de très important d'avoir ce respect pour les uns et les autres, d'abord dans la manière de s'exprimer, dans la forme de l'expression, et puis dans le fond par rapport à l'analyse qui est apportée, et ce souci surtout de pédagogie et de recherche absolue de la vérité. Donc je lui souhaite que son âme repose en paix, et je présente mes condoléances à la fois à sa famille biologique et à sa famille professionnelle, celle de notre noble métier de journaliste.
Merci. Et pour rendre hommage à José Naouej, on va écouter Testament à Baoulé de Simaro Massia, et on revient juste après.
Oh Nzambe, au salabo moïwa moto, moto roya okutana malade, mondele pe a sali kisi, po moto abika. Vraiment ce que zra ki po na mbongo, nde boule ya kufite, po famille a sali nyonso. Nzambe, po nanini liwa, ah, somo, nandima kite.
Testament, bane kona kotanga na kozongelai, maloba ya boule, baninga na kotanga na kolelai, nazangi na mokilio, bafa mi bosali ngai mabe, masia na sala fiele watio mokili esimi. baneko na kotanga na kozongelai maloba ya boule baninga na kotanga na kolelai nazangi na mokili obine mibole singa poison lwambo na sala fiele watio mokili esili singa lolendo lelo nandimi Boule, tangolo kola kake na matoye Epe singa liboma na zangi likambonga na sala Mongwe loko pama, eko kiko somba liwase Ya boule o, lobi na pasi otalinga oseki Opeke singa ekole na eka, sola kakinga okobika Zoko yeba toza liko kende, oko singa neko kosa Na keikola la yo kati motema, atali lo basuka Jose o me chante o mama Ya bole o, lo bina pasio talinga oleli Obo meninga sekele o, kaso yeba te oko kupa Olo bina ngana keneko lalai, oko singa neko kosa Sima nanga yo katimo tema, olinga kina zala te o Chose yo me chante mama Ya Jose o Boule osali ngai mabe, ngai matie Na soma neko na moka ninyo, baninga nyo somo tona neko na ye Jose osili singa lolendo e, na lala
C'était Testama ya Boule, chanson composée par Lutumba Simaro Massia en 1986, interprétée par Malage de Lugendo. Cette chanson nous a permis de continuer, n'est-ce pas, à rendre hommage à l'éditeur José Nawej qui nous a quittés le samedi dernier. Paix à son âme. On revient à l'actualité de cette semaine. Depuis plusieurs jours, les rebelles du M23 tentent de déborder l'armée congolaise par les versants est du volcan Nyiragongo dans les parcs de Virunga pour attaquer la ville de Goma ou occuper d'autres positions de l'armée, affirme les porte-paroles du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. La riposte de l'armée ne se fait pas entendre, dit le lieutenant-colonel Guillaume Njike. Ce vendredi à Goma, la force de la MONUSCO et l'armée congolaise ont annoncé lancer l'opération conjointe dénommée Springbok. L'annonce a été faite ce vendredi à Goma lors d'un point de presse animé conjointement par les commandants de la force de la MONUSCO et les porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. L'opération vise à protéger la ville de Goma et la cité de Sake notamment contre la menace des attaques de la rébellion du M23. Maître Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central, vous avez proposé ce sujet, on vous écoute.
Oui, merci, merci beaucoup pour la parole. Nous constatons que déjà en mai 2023, l'armée avait déjà signalé que le Rwanda et le M23 planifiaient une attaque contre la ville de Goma. Et maintenant qu'ils sont à 20 km de Goma, c'est à ce moment-là que le gouvernement intensifie. Et vous comprenez là qu'il y a un problème. Et le problème, c'est lequel? C'est que on ne prend pas de dispositions à l'avance. Au mois de mai, on a l'information. Et jusque-là, il n'y a pas, je suppose, qu'il n'y avait pas de stratégie mise en place pour empêcher que ces M23 s'approchent de Goma. Et là, on est comme surpris qu'ils sont à 20 km et c'est en ce moment-là qu'on intensifie. Je me suis posé mille et une questions. Ce n'est qu'une rébellion. On dit la rébellion et ses alliés. La rébellion, là, c'est une composition des Rwandais. Alors, qui sont les alliés? Moi, j'extrapole qu'il n'y a pas que le Rwanda dans cette histoire qui déstabilise l'est de la RDC. Il y a d'autres personnes qui sont alliées au M23 Rwanda pour déstabiliser l'est de la RDC. Quelles sont les motivations? La question peut être posée. Et on comprend que les motivations peuvent être multiples. C'est beaucoup plus les ressources naturelles.
Merci. Merci Faustin Koyasala, journaliste. Vous êtes directeur de publication du journal Echo News paraissant à Kinshasa. Cette situation n'était-elle pas prévisible?
Bon, merci Guy. Moi, je voudrais prendre le problème par l'autre bout. contrairement à ce que madame vient de développer. Vous savez, Guy, quand on est en face d'un problème, dès l'instant où on l'a mal posé, il ne faut pas s'attendre à ce que la solution soit aussi appropriée pour résoudre le problème. Et c'est apparemment ce qui se pose dans l'Est de la République démocratique du Congo. En fait, nous connaissons le vrai problème. Mais au lieu de s'attaquer directement au problème qui est posé, on essaie de le contourner en prenant des raccourcis qui finalement nous ramènent à la case départ. Rappelez-vous quand le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est interrogé sur France 24, quand la MONUSCO, qui a concentré une bonne partie de ses troupes présentes en RDC dans la partie Est, soi-disant que c'est la partie névralgique de la RDC, d'où partent tout le plan de déstabilisation. Quand le secrétaire général des Nations Unies reconnaît Urbi et Orbi que les troupes onusiennes ne sont pas en mesure de combattre les M23, parce que les M23, un mouvement rebelle, dispose d'un armement qui est de loin plus sophistiqué à celui que détient les troupes onusiennes. Là, il y a un problème. Moi, je crois dans ce qui se passe à l'Est, il faut être franc et honnête envers nous-mêmes, il y a une certaine hypocrisie des acteurs internationaux. Une hypocrisie parce que on ne veut pas nommer les vrais problèmes. Aujourd'hui, moi en tant que Congolais, ça m'énerve que chaque fois, je me rappelle dernièrement, j'étais avec mon petit enfant de 8 ans. On lui avait donné un devoir là, à l'école là-bas. J'essayais de lui expliquer la carte de la région des Grands Lacs. J'ai eu du mal à convaincre mon enfant que non, voilà le petit pays Rwanda là, qui dans une carte n'est représenté que par un point. C'est ce petit pays-là qui menace toute la RDC. Et chaque fois que nous menace, nous on va courir vers les autres pour dire non, voilà la communauté internationale, le Rwanda est encore en train de nous frapper là-bas. Moi je crois, évidemment, il faut qu'on pose le vrai problème. Le vrai problème aujourd'hui dans les Grands Lacs, c'est que tant que dans l'Est des RDC, on aura des régimes qui ne sont pas démocratiques, il faut nommer les chats par son nom. En Ouganda, on ne parle pas démocratie. Au Rwanda, on ne parle pas non plus démocratie. Au Burundi, bon, il y a un semblant de démocratie. On sait comment ça se passe. Aujourd'hui, tout le problème qui se pose à l'Est de la RDC, c'est parce que les Rwandais, le régime du Rwanda, qui est un régime autocratique, on le sait, le régime qui est à Kigali aujourd'hui, il est convaincu que tant qu'il y aura l'instabilité à l'Est de la RDC, lui, son pouvoir serait d'autant protégé à Kigali. Et le Rwanda a trouvé une bonne stratégie d'exporter ses problèmes à l'Est de la RDC au lieu de les subir chez lui en interne. Il faudrait que la communauté internationale, c'est vrai qu'on doit dire non, voilà, il faut que les FARDC se réorganisent, il faut restructurer l'armée. Ça, c'est une vieille affaire parce que la restructuration de l'armée, on en parle depuis les dialogues de San City en 2002. Donc, ça fait 21 ans qu'on est en train de courir derrière le vent. Donc, il faudrait que quelque part, la communauté internationale joue frangé avec nous. Et que nous-mêmes aussi à Kinshasa, on soit conscients de ce que nous voulons faire. Il ne faudrait pas que nous nous engagions dans un processus et après un temps on se dit non, voilà, on ne veut plus de ça, non, on veut maintenant prendre telle option.
Merci Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais. Vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Nous l'avons dit, ce vendredi à Goma, la force de la MONUSCO et l'armée congolaise ont annoncé lancer l'opération conjointe dénommée Springbok. Cette implication de la MONUSCO dans les combats aux côtés des FARDC peut changer la donne sur le terrain, à votre avis?
Moi, je crois que le problème est si profond et si ancien qu'on semble oublier les racines et qu'on semble oublier les fondamentaux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas résoudre le problème de l'insécurité à l'est de la RDC sans commencer par régler le problème des communautés qui y vivent, qui y cohabitent depuis plusieurs années et qui ne sont pas toujours en de très bons termes. Cela fragilise le tissu national et permet parfois l'immixtion des puissances étrangères dans la gestion des affaires communes aux Congolais. Et je crois que tant qu'on n'a pas résolu ce problème-là, vouloir résoudre le problème plus global, plus régional de la sécurité dans la région des Grands Lacs sera mission impossible. Et je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que même si aujourd'hui le M23 est considéré comme un suppôt et du Rwanda et de l'Ouganda, il ne faut pas oublier que derrière ces pays qui sont cités, il y a surtout de grandes entreprises qui, dans le cadre de la mondialisation, tire profit du grand désordre qui règne aujourd'hui dans l'est de la RDC. Ce désordre leur permet de faire de bonnes affaires et d'alimenter le marché mondial avec des produits que l'on ne trouve majoritairement qu'en République démocratique du Congo. Donc le crime ici ne profite pas. Bon, on dira qu'ils sont quelque part aussi, qu'ils sont des détenteurs de cette richesse-là, puisque cela leur profite par ricochet, mais les vrais bénéficiaires finaux sont des grandes entreprises sur lesquelles il faudra bien que la vérité soit dite, parce que si ces entreprises ne sont pas derrière l'armement dont bénéficie le M23, derrière les complicités qui permettent à ces armes d'arriver et derrière l'argent qui permet de tirer tous ces bénéfices-là, il ne se passera rien. Donc, pour moi, aujourd'hui, se limiter à la lecture qui est celle de dire le Rwanda, l'Ouganda et tous les autres États agresseurs n'est pas suffisant. Il faudrait que l'on arrive aussi sur la scène internationale à appliquer ce que l'on est en train d'appliquer à la Russie aujourd'hui contre les entreprises qui tirent bénéfice de ces crimes contre l'humanité et contre les populations, c'est-à-dire les taper au portefeuille. Et malheureusement, je crois que tant qu'on n'aura pas la force au sein de nos pays d'imposer ce type de règlement-là, on subira encore pendant très longtemps, malheureusement, les crises et les guerres que nous imposent ces entreprises pour tirer un grand bénéfice des richesses de l'Afrique sans lui apporter aucune once de développement, alors que c'est le droit légitime des populations qui vivent dans ces régions-là.
Merci. On prend une petite pause avec Matumba Deboa Lotin. Je reviens juste après.
Matumba mambo wa mese mayo kiduka nelonge Beli pangado ewani mungenge bonadela Kuma omwe pesu kuto kuto kowe dodo
Odinde
Dekarago Matumba mawase mese mayo kiduka nelonge Beli pangado ewani mungenge bonadela Kuma omwe pesu kuto kuto Mama o bebe dobo 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 e dodo Todi songele bitu ibanise kunja bilame Nubina dorika e kipangando e polo panga Yepe nginya banga yo Mitekam Puma, Atem Dengandum Busaka for Batajaman. Usimam Temu, Yuike Kawasanga do Bibadi. Kaya Bewa Devi, Kaya Bewa Bube. Tombu di Ileke Tongo Badi, Joy Totonya, the Obone Bela Bato Babina Bela. Bela Nasana. Kutamandenge abina bela Ayo oe Sibu wa iyo abina bela Bela nyata Sibu siya kwa abina bela Emajinda kota Yo oe Ayo oe Bela 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 Yobina bela Bela nyata Banduma mundu babina bela Bela emakosa
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi, à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en RDC. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre à quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ces magazines, nous avons fait un commentaire au sujet de la Journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Nous avons également analysé la poursuite des combats au Nord Kivu entre les FADC et les M23. Participe à cette émission Faustin Kwadiasala, il est journaliste et directeur des publications du journal Echo News paraissant à Kinshasa, Maître Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kimayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Comment lutter contre la déforestation et mettre en place des stratégies de développement et de conservation durable? C'est le thème qui a été au centre du sommet des trois bassins forestiers tropicaux qui s'est tenu à Brazzaville en République du Congo du 26 au 28 octobre 2023. Objectif de cette rencontre, favoriser une meilleure collaboration entre les pays forestiers, mais aussi afficher une volonté d'accélérer la coopération sud-sud tout en développant un front commun dans le cadre des négociations internationales sur les forêts. Faustin Kodiasala, vous avez souhaité nous parler de ces sujets en les formulant ainsi, sommet de Brazzaville sur les trois bassins forestiers tropicaux, et après. Pourquoi une telle question, Faustin Kodiasala?
Bon, merci Guy pour la question. Bon, si j'avais souhaité assez qu'on puisse échanger avec des amis autour de cette question, c'est parce que je me dis quelque part, voilà encore une occasion où nous autres Africains, nous avons prouvé à la face du monde qu'on est incapable de se mettre d'accord quand il s'agit de parler d'un sujet de portée mondiale. Je m'explique. Les sommets des trois bassins forestiers mondiaux, il y a l'Amazonie, il y a le bassin du Congo, et puis il y a le bassin de Borneo-Mékong en Asie. Cette idée est née d'où? Cette idée est née début août à partir du sommet régional des pays de l'Amazonie. C'est tenu à Belém, une ville brésilienne. Sommet auquel étaient conviés, entre autres, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et le président du Congo, Brazzaville, d'en face, Denis Sassou Nguesso. C'est dans ce sommet-là de Belém que l'idée a germé de convoquer une rencontre, parce que le lieu initial, c'était d'abord Kinshasa, où les leaders, c'est-à-dire les pays des trois bassins, devaient se réunir dans la perspective de COP 28 qui va se tenir aux Émirats, de façon à avoir une position commune sur les enjeux du réchauffement climatique. Mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce qu'à Belém, l'idée était, comme je le disais tantôt, de tenir ce sommet à Kinshasa. Parce que vous savez, en Amazonie, dans les trois bassins, il y a toujours des pays qui prennent le leadership. Quand vous parlez Amazonie aujourd'hui, on voit c'est le Brésil qui prend les devants. Et logiquement, quand on devait parler du bassin du Congo, c'est la RDC qui devait prendre les devants, parce que la RDC qui abrite au moins 60% du bassin du Congo. De la même manière, quand vous parlez du bassin Bornéo-Mékong, c'est l'Indonésie qui prend les devants. Alors qu'il y a d'autres pays qui sont là, mais au moins on indique que nous voilà pour nous représenter, voilà tel pays. Mais on s'est rendu compte que il y a une polémique qui s'est créée entre Brazzaville et Kinshasa sur qui va abriter finalement le sommet. Si bien que par respect, certainement, parce que c'est ce que je suppose, par respect, le président Félix Tshisekedi n'a pas voulu ouvrir un front contre son grand frère Denis Sassou Nguesso du Congo Brazzaville. Finalement, il a dit lui céder la passe, comme on dit, s'il faut utiliser le langage footballistique, pour que le vieux puisse abriter le sommet. Mais même avec la tenue de ce sommet à Brazzaville, parce que les autres, ils ne sont pas aussi bêtes quand même, les autres, c'est-à-dire les pays de l'Amazonie et les pays de Bornéo-Mékong, ils se sont rendus compte que déjà entre nous, on commence à se tirailler, qui va prendre les devants, qui va abriter le sommet, ainsi de suite. Vous allez remarquer entre nous que aucune délégation, en tout cas, de haute facture, ni de l'Amazonie, ni de Bornéo-Mékong, avait fait le déplacement de Brazzaville. C'est que, quelque part, le sommet de Brazzaville n'était qu'un sommet des pays du bassin du Congo. Parce que le seul chef d'État qui était présent là-bas, c'était le chef d'État des pays balayés par le bassin du Congo. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous m'avez interrogé sur le sujet, je vous ai dit « et après ». Et après, c'est-à-dire, voilà une autre occasion où nous autres Africains, on a trouvé à la face du monde que quand il s'agit de parler des problèmes qui nous dépassent, c'est-à-dire dont les enjeux vont au-delà de nos frontières et éviter la colonisation, on est incapable de se mettre d'accord sur une option commune. Parce que comment expliquer que les pays de l'Amazonie, là, qui prennent au sérieux cette affaire de compensation liée à la déforestation ou aux efforts qu'ils sont en train de fournir dans le cadre du réchauffement climatique, et ils tirent des comptes en termes de compensation. Mais nous autres, on est en train de tourner en rond, on est en train de se marcher dessus parce qu'on se demande qui va prendre le devant, qui va prendre le leadership. Si bien qu'aujourd'hui, ce sommet-là s'est tenu et ça s'est clôturé dans un décor totalement, avec un goût d'inachevé. Aujourd'hui, on ne sait pas dire exactement qu'est-ce qui a été fait à Brazzaville. Rien du tout, c'était protocolaire. C'est pourquoi j'ai dit quelque part, il faudrait que nous autres, et je félicite même le président Félix Tshisekedi, il a eu le courage. Il a eu le courage de le dire samedi passé au niveau de Brazzaville, condamnant cette hypocrisie des pays africains Si chaque fois qu'il faut parler des grands dossiers et les mettre sur la table, on a l'impression qu'on doit toujours être des petits-enfants qui doivent être assistés, des petits-enfants à qui on doit dire, voilà, ça, il ne faut pas faire, ça, vous pouvez le faire, mais vous ne pouvez pas dépasser telle limite. Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que moi, personnellement, je me demande, qu'est-ce qui a justifié l'intervention du président Macron au sommet de Brazzaville? Rien du tout, je ne le vois pas. On pouvait penser peut-être que le président Lula intervienne, c'est normal, parce qu'il s'est excusé pour ne pas avoir fait le déplacement du Brazzaville, mais les autres. Donc on a donné l'impression que chez nous, en fait, on n'a pas encore atteint ce stade-là de nous gérer nous-mêmes. On n'a pas encore intégré dans notre gouvernance que non, face à certains problèmes, il faut que nous nous comportions totalement en état souverain. Nous prenons une option, nous la levons et nous avançons. C'est comme si chez nous, tout doit être sous-traité. C'est-à-dire pour que nous fassions quelque chose, il faut que l'Occident nous dise, voilà, ça vous pouvez faire, mais ça, il ne faut pas le faire. Et c'est malheureux que le sommet de Brazzaville, qui devait en principe servir de lien pour cimenter les blocs entre les pays des trois bassins tropicaux, là, apparemment ce sommet, on l'a raté, parce qu'on n'a pas atteint ses objectifs. Certainement, je suppose que parce que les autres se sont rendus compte que ça serait une perte de temps. Et je leur donne totalement raison.
Merci. Maître Annie Massengou, l'absence, justement, l'absence des pays d'Amazonie et des Bornéo-Mekong à Brazzaville, ne va-t-elle pas torpiller cette démarche qui consiste à mettre, n'est-ce pas, en place un front commun afin que les pays qui détiennent toutes ces forêts puissent parler le même langage? Voilà, elle est partie apparemment. Louis Magloire Kemayou, je vous pose la même question. Hein. L'absence des pays d'Amazonie et de Bornéo-Mekong à Brazzaville ne va pas, n'est-ce pas, préjudicier cette démarche qui consiste à mettre en place un front commun afin de permettre à nos pays de parler le même langage face aux puissances, aux grandes puissances?
Non, je crois que avant d'être un combat global, c'est d'abord un combat de souveraineté nationale. C'est-à-dire que chaque pays va défendre ses intérêts vitaux avant de s'allier aux autres pour qu'il y ait des atomes crochus qui soient trouvés et que le dénominateur commun qu'il y aura entre eux permette de tirer vers le haut les intérêts qui seront défendus. Donc pour moi, ce n'est pas une grande inquiétude que les autres ne viennent pas forcément. Ils ont leurs raisons, elles peuvent être bonnes ou mauvaises, là n'est pas le sujet. Pour moi, ce qui compte aujourd'hui, c'est que l'on arrive sur l'agenda de la défense de l'environnement, de la protection de l'environnement, à trouver des éléments qui fassent que les pays qui ont jusqu'à présent bénéficié de la pollution payent le tribut qui est dû aux pays qui ont subi cette pollution. Et donc, pour moi, alors que on avait pensé que avec ATAC on pourrait prélever 1% sur les transferts internationaux, je crois que là on a un élément objectif qui permet à nos pays de dire nous participons à la lutte contre la déforestation, nous participons à apporter davantage d'oxygène à la planète, nous devons en tirer tous les avantages, y compris financiers. Et si on n'arrive pas à imposer cela sur le plan national avant ensuite de nous associer pour faire bloc face à ces pays-là, on n'arrivera à rien. Donc pour moi, que les autres viennent ou pas, cela ne nous empêche pas de faire nos devoirs. Et faire nos devoirs, c'est arriver à faire non seulement le bilan de tout ce que nous avons subi et de tout ce que nous avons apporté, mais également de dire à notre niveau, voilà ce que vous nous devez, voilà ce que nous avons apporté. Si on fait cet état des lieux-là et qu'il est sérieusement fait, les autres feront exactement la même chose de leur côté et nous pourrons par la suite défendre de façon commune ou pas ces intérêts-là. Mais nous ne sommes pas obligés de faire absolument bloc avec le monde entier pour avoir gain de cause.
Merci Madame Annie Matenou, est-ce que vous êtes là?
Je suis là.
Voilà. Et comment peut-on arriver à bien mener ces projets de préservation de la forêt dans un contexte mondial où ceux à qui, n'est-ce pas, on demande de protéger les forêts ont tendance à recourir à la déforestation pour leur croissance économique, étant donné que les grandes puissances, les grands pays pollueurs n'arrivent toujours pas à respecter leurs engagements financiers? Comment on peut arriver à réussir cette démarche-là pour préserver la forêt dans un tel contexte?
Bon, les grands pollueurs n'arrivent pas à respecter leurs engagements. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faudrait que les Africains sortent de leur camp de dépendants, qui ne font que subir, devons nous prendre en charge pour assurer notre avenir et être capable de dire non et de mettre fin à un contrat lorsqu'il y a violation du dit contrat par l'une des parties. Il ne faut pas être là, passer le temps à se lamenter, comme si nous avons de la richesse, mais nous sommes en train de supplier les autres afin qu'ils respectent leurs engagements de façon à exploiter cette richesse-là. Il faut à un moment donné taper le poing sur la table pour dire quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, vous ne respectez pas, alors on met un terme. Il va falloir que l'Afrique arrive à ce niveau-là, de s'assumer. Voilà.
Merci, merci. On prend une petite pause en écoutant Vous les femmes de Julio Iglesias et on revient juste après.
Les charmes, vos sourires nous attirent, nous désarment. Vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres diables. Avec des milliers de roses, on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous le prouve. On sait quoi de fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours vous répondez, mais peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, que nous sommes vulnérables, misérables, nous des hommes. On fait tout pour se calmer, puis son éclat. On le trouve des jalousies et ça vous plaît. Vous les femmes, vous les chèvres, vos sourires nous attirent, nous désarment. Pauvres diables, que nous sommes vulnérables, misérables, nous.
C'était vous les femmes de Julio Iglesias. On revient à l'actualité de la semaine. Je rappelle que dans cette émission, nous avons Faustin Kodiasala, il est journaliste et directeur de publication du journal Econews par Essan Kinshasa. Maître Annie Massengou, membre de la société civile du Congo central, est en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo. Louis Magloire Kemayou, journaliste camerounais, il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Déterminé à mettre fin au cycle des conflits et des violences sévissant régulièrement dans la région des Grands Lacs et plus particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo, le 24 février 2013, 11 pays de la région Afrique du Sud, Angola, Burundi, Ouganda, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République du Congo, Rwanda, Soudan du Sud, Tanzanie et Zambie ont signé l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Ils ont ensuite été rejoints par deux autres pays, le Kenya et le Soudan, qui sont aussi devenus signataires de l'accord cadre le 31 janvier 2014. L'accord cadre définit dans les grandes lignes les principales mesures nationales, régionales et internationales requises pour consolider la paix et la sécurité dans l'est de la RDC et promouvoir la coopération entre les gouvernements des pays de la région. Il s'est tenu entre le 31 octobre au 2 novembre dernier une retraite à Durban en Afrique du Sud sur la revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Louis Magloire Kemayou, vous avez souhaité nous parler de cette revitalisation de l'accord cadre d'Addis Abeba. On vous écoute.
Oui, j'ai choisi d'en parler parce que cela illustre un peu les raisons pour lesquelles le règlement de la situation sécuritaire à l'est de la RDC sont difficiles aujourd'hui à rassembler. On a du mal à régler ce problème parce que je crois encore une fois que les gens fuient devant leurs responsabilités dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, j'ai l'impression que l'on accumule les réunions et les résolutions en ayant l'impression que plus on en fera, plus les gens auront l'impression qu'on s'occupe du problème et qu'il sera résolu quasi automatiquement. Or, dans des situations comme celle-là, il faut être le plus pragmatique possible. Il y avait des responsabilités qui avaient été établies pour la RDC, pour ses voisins, pour la communauté internationale. En fait, il y avait plusieurs paliers de responsabilités qui avaient été établis, mais sur lesquels aujourd'hui, personne ne veut effectuer un bilan. Et même le bilan, quand il est effectué, se fait quasiment à huis clos. Et on a l'impression qu'on se dit peut-être les vérités à huis clos, mais qu'une fois qu'on en est sorti, on reste dans cette hypocrisie qui ne permet de rien régler au bout du compte. Pour moi, il faut que l'on soit d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, l'Est de l'Afrique, la corne de l'Afrique en général, en partant des Grands Lacs, est devenue une zone d'insécurité totale où il faut arriver à un dialogue très franc qui permette de dire nous avons aujourd'hui plusieurs pays qui sont opposés, non pas parce qu'ils sont incapables de vivre ensemble, mais parce qu'il y a des partenaires internationaux, notamment de grandes entreprises, qui arrivent à les opposer les unes aux autres. Et que le développement de ces régions ne se fera jamais tant que nous resterons sous le joug de cette instrumentalisation, de cette espèce d'ombre chinoise qui sont projetées et qui donnent l'impression que les pays sont incapables de trouver la paix par eux-mêmes. Il faut qu'ils soient aidés, et pour qu'ils soient aidés, il faudrait que l'on trouve une résolution qui permette de punir ceux qui instrumentalisent aujourd'hui les populations et leur font subir les pires des sévices sur les territoires qu'ils occupent. La situation est valable pour la RDC, elle est valable pour le Rwanda, elle est valable pour des pays comme la Somalie aujourd'hui qui n'existent pratiquement plus. Et donc, si l'on veut que l'Afrique se développe, pour moi, l'Union africaine devrait prendre le leadership dans ce dossier et faire en sorte qu'une résolution, un peu comme sur les diamants du sang, qu'une résolution soit trouvée qui permette d'arrêter les ingérences étrangères dans les affaires publiques africaines.
Merci, Maître Kani Massengou. Ce n'est pas la première fois qu'on procède à la réactivation de cet accord cadre d'Addis Abeba. On se rappelle qu'une telle démarche avait été menée à Addis Abeba au mois de mars dernier. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut motiver cette démarche en cours à Durban, en Afrique du Sud?
Bon, à mon avis, moi, je trouve que c'est uniquement une distraction, parce que moi, je lis dans ce qui se passe l'hypocrisie pure et simple de même des États africains qui semblent, je sais qu'il doit y avoir une motivation derrière tout ce qui se passe à l'Est que nous n'arrivons pas à dénicher exactement. Peut-être parlerait-on du sentiment de balkanisation, mais bon, c'est comme si de rien n'était, mais dans l'entretemps, tout le monde, ou le Congo, moi j'estime que la RDC est seule contre le monde, tout le monde semble lui apporter secours, alors que derrière ces secours-là, on est en train d'aider justement un autre État à arriver à ses fins. Et donc, les multiplications des rencontres qui ne produisent rien ne serviraient à rien. Vous mettez des accords, il faut aussi des garanties, des punitions, des sanctions qui vont suivre lorsque une des parties ou des protagonistes violerait l'accord. Mais un accord qui n'est pas contraignant, qu'est-ce que cela nous apporterait? Parce que depuis longtemps, on essaye de le dire, on essaie de se réunir, on organise des sommets, on organise ceci. Tantôt on est là-bas, aujourd'hui on est de l'autre côté, on se retrouve, on va parler de l'insécurité à l'est de l'RDC. Mais ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Que toutes ces rencontres-là ont produit? Rien du tout. Ce sont des populations congolaises qui meurent, qui continuent à mourir. Donc je crois que on doit mettre un terme à cette hypocrisie-là. Et que notre gouvernement se prenne en charge, que les gouvernements congolais arrêtent un peu de suivre toutes ces distractions-là et organisent la sécurité de l'État congolais, la sécurité de sa population au lieu de continuellement suivre des gens qui ne nous apportent pas de solutions.
Merci Faustin Kodiasala. Nous allons finir cette émission avec vous. Madame Annie Massengou l'a rappelé, hein, l'accord cadre d'Addis Abeba n'a pas un caractère contraignant. En fait, on table beaucoup plus sur la bonne foi des États pour qu'ils soient respectés. Et à votre avis, on peut s'attendre à quoi par rapport à cette démarche qui est en cours à Durban? Est-ce qu'on peut espérer voir les États accepter cette fois-ci de respecter leurs engagements pris à travers cet accord?
Bon, merci Guy pour la question une fois de plus. Vous l'avez même bien dit dans votre introduction. Ça fait 10 ans que 4 organisations internationales, toutes réunies, l'ONU, l'Union africaine, la CIRGL et la SADC, s'étaient réunies à Addis Abeba pour soi-disant susciter de nouveaux espoirs d'un lendemain meilleur après des conflits d'instabilité, tout ça, et d'exploitation de souffrance dans la région des Grands Lacs. Et même l'État congolais, la communauté internationale, on l'avait applaudi, je me rappelle à l'époque, semblait être résolu à parvenir, grâce à une approche globale, à une paix durable, à un essai dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, on se rend compte que, une fois de plus, on s'est trompé des logiciels. Et les logiciels qui fait qu'on n'arrive pas à sortir de ces bourbiers dans la région des Grands Lacs, c'est qu'on présente la RDC comme étant les problèmes dans la région. Alors que la RDC n'est qu'une victime de tous les problèmes latents que la communauté internationale n'arrive pas à aborder dans la région des Grands Lacs. Au premier thème de cette émission-là, j'avais dit que non, voilà, tant qu'on aura à Kigali, en Ouganda, des régimes qui ne sont pas démocratiques, qui vont exporter leurs problèmes en RDC, on donnera l'impression que c'est la RDC qui est le problème, alors que c'est pas le cas. Et je dois, avec l'accord d'Addis Abeba, on se rend compte que, une fois de plus, on s'est trompé d'analyse. Même l'ONU est convaincu que tous les groupes armés qui équipent à l'Est, ils sont généralement armés, soit par l'Ouganda, soit par les Rwandais. Et on en a la preuve évidente avec les M23. Tous les rapports des Nations Unies, au moins, sur ce point-là, il y a une unanimité qui s'est dégagée, que les M23 est soutenu par les Rwandais. Et que les M23, c'est pas une rébellion qu'on voulait présenter comme une affaire congolo-congolaise. Rien du tout. Les M23, c'est une affaire du Rwanda. Alors, je dis qu'on se retrouve encore à Durban, soi-disant, pour révisiter l'accord d'Addis Abeba. Alors qu'en 10 ans, on ne sait même pas dire qu'est-ce que cet accord nous a apporté sur le terrain. Rien du tout. C'est pourquoi je le disais et je félicite le président, Tshisekedi, qui à Brazzaville a eu le courage de dire, vous autres Africains, il faut sortir de cette hypocrisie-là. Il ne faut pas que non, on donne l'impression d'avoir la volonté de résoudre un problème, alors qu'entre-temps, on met les bâtons dans les roues pour que ce problème ne soit jamais résolu. Je crois que notre ami camerounais l'a bien souligné là. Par rapport à la question de forêt. Aujourd'hui, il faudrait que nous autres Africains aussi, parce que c'est vrai, on voudrait à ceux qui sont constitués des blocs, que les bassins du Congo parlent le même langage. Mais il faut qu'on sente aussi au niveau de chaque pays un certain leadership pour s'approprier cette question. C'est comme avec la question des Grands Lacs. Aujourd'hui, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'Est, la RDC, je vois notre porte-parole du gouvernement, les ministres des Affaires étrangères et tout le monde courir vers la MONUSCO, courir vers les États-Unis pour dire non, voilà, une fois de plus, le Rwanda a violé les cessez-le-feu qui nous engagent dans la région des Grands Lacs. Il faut que nous nous départissions de ces clichés totalement héréditaires. Il faut que nous nous assumions comme État souverain. Ça fait 60 ans qu'on est indépendant. Il ne faudrait pas qu'on continue à pleurnicher comme des petits enfants. Notre souveraineté, notre intégrité nationale, on doit la défendre. Il faut que nous nous dotions des moyens pour savoir les défendre. Attendre quelque chose de cette communauté internationale-là, c'est comme attendre Godot qui ne viendra jamais, évidemment.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Louis Magloire Kemayou, Maître Annie Massengou et Faustin Kodiasala. Merci aussi à Polydor Basunga qui était à la technique avec la participation de Christian Lomombe, Didier Dandy, d'Hervé Voka et de Dieudonné Nyangassa sous la supervision d'Alex Essomé et de Martin Sebujangwe. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 22h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On va se séparer avec Zekira de Jossar Nyokalongo de Zaiko Langalanga, sorti en 1995. On se retrouve le samedi prochain.
Zekira. yota balo binatika nzela ya bo na meki na benda nzoto kasi motema ekoti mama.
Mais